Un rideau se tire. Un rideau se lève. La nuit crépite son vivant quand le petit matin lui dit viens, 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 viens. Éduquer, verbe transitif du latin éducare. Former quelqu'un en développant et en épanouissant sa personnalité. A. Préposition du latin ad, vers. Aller vers, se diriger, se mettre en mouvement dans le rythme de sa vie. Environnement, nom masculin, ce qui entoure de tous côtés, voisinage, environné, de environ, de l'ancien français viron, cercle, rond, autour de. Bienvenue dans la Drôme Nature, l'ADN, chronique drômoise de l'éducation à l'environnement. Depuis la nuit des temps, les grands accompagnent les enfants. Dehors, dedans, des parents, des animatrices, animateurs, éducatrices, éducateurs, accompagnent les plus jeunes au cœur de leurs apprentissages et leur transmettent des connaissances sur leur environnement qui leur permettent de grandir, s'épanouir et s'adapter au fil des changements. Comment éduque-t-on à l'environnement, aujourd'hui, dans la Drôme? 2000 façons, me diriez-vous, et vous auriez raison. C'est à travers le réseau drômois d'éducation à l'environnement, le RDEE, que je nous emmène découvrir ce monde local qui nous entoure. La raison d'être de ce réseau, soutenu par le Conseil départemental, est de promouvoir l'éducation à l'environnement dans le département de la Drôme. Il a pour objectif la mise en lien, la mutualisation des pratiques et des ressources, la coordination de projets et le partage d'expériences dans le champ de l'éducation à l'environnement à l'échelle départementale. Sans plus attendre, voici donc notre portrait du jour. Aujourd'hui, je nous emmène sur la commune de Soues à la rencontre des rapaces. Enfin, on espère. Donc je vais retrouver Pierre Voilà, des volontaires pour la nature.
Bonjour. Tu es Pierre?
Oui.
Ok.
Ça.
Alors nous empruntons une piste pour rejoindre le groupe qui est en train d'observer la présence de rapaces sur Roche-Colombe.
L'idée de ce chantier, c'est en partenariat avec les grimpeurs et le département, de déterminer les zones de nidification du faucon pèlerin et de l'aigle royal. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé les zones de nidification, on peut fermer les voies d'escalade de manière à ne pas les déranger, parce que c'est des espèces très sensibles, pour que la reproduction puisse fonctionner.
On a vu un faucon pèlerin déjà, c'est ce qu'on cherchait, qui était posé, qui s'est longtemps toiletté, qu'on a pu observer pendant plusieurs dizaines de minutes, bien tourné vers nous, donc on voyait bien son plastron blanc et sa tête noire. Et on attend de voir s'il rejoint une cavité qu'il fréquente depuis plusieurs années pour voir si cette cavité continue d'être occupée pour la couvaison. Ouais. Voilà. Bon, on ne l'a pas encore vu rejoindre la cavité.
Ah. Alors le faucon, il remonte presque en crête de la falaise du haut. Il passe une partie très ocre. Ah, il va le chercher dans la cavité quasiment à chaque fois. Hein. Il le dégage. Hein.
Il y a un autre un peu plus bas de corvidé.
Hop.
Voilà, ça se bataille là. Dans la forêt un peu plus bas.
Ça sent bien le mal. qui fait le ménage là. Hop, il poursuit celui du haut. Il pique sur celui du haut. Une belle séquence là.
Le baston.
Un pèlerin qui est en train de harceler le couple de grands corbeaux là. Allez, fond de ciel, un petit bout au-dessus de la crête là pour le repérer.
Tout en haut.
Ça y est.
Putain, comme il monte d'un coup.
Ok.
Il est tout en haut. Non, au-dessus. Okay,
il est là-haut, fond de ciel. Roche.
Et il pique à nouveau. Ils sont très très vite. Hein. C'est un mélange de. Bah d'agressivité envers le grand corbeau et de parade aussi, parce qu'on voit qu'il fait des grands 8 là. Ouais, il est sur une vire quasiment au sommet. Voilà, il est posé là.
On va les deux genévriers là.
Il est sur la gauche des genévriers, ouais.
Entre les deux, enfin il y a deux buissons.
Toi, c'est plutôt dos.
Ah, il est reparti.
Regarde, ça typiquement on est sur des parades en fait, une sorte de grand 8. Il est parti à gauche, se poser là-bas, voilà, super. Là il va être beau.
Au soleil.
Alors là du coup on a vraiment eu une séquence où on sent qu'il y a de la défense territoriale. Que probablement ce mâle là il est en train de harceler les grands corbeaux pour qu'ils changent de site. Ouais. Et comme on voit que le mâle pour l'instant, on peut supposer que la femelle elle est sur les œufs.
Et comment tu peux différencier que c'est le mâle justement ?
Là c'est plutôt une supposition, mais globalement c'est son job à cette période de la saison. Si la couvaison est amorcée, c'est plutôt du coup le rôle de la femelle. Il va la remplacer à certains moments quand elle sort pour se nourrir, etc., se dégourdir les ailes. Et par contre, la défense de territoire, ça lui incombe quoi, souvent. Donc c'est lui qui va pour chasser une buse ou harceler les grands corbeaux comme il le fait là, ou piquer sur un aigle royal aussi, ça peut arriver.
Ah ouais ?
Vache. Ouais, il n'y a pas de crainte particulière eu égard à sa taille quoi. Il peut vraiment aller titiller l'aigle royal. Un vautour faux si besoin.
Bon, mais c'est bien, il y a de l'activité.
Ça ne nous apporte pas pour autant l'info qu'on recherchait, c'est-à-dire la localité précise de l'air, mais ça confirme le comportement territorial, le cantonnement sur ce bout de falaise, donc c'est plutôt de bon augure.
Yannick, on parlait tout à l'heure de ce qui s'était adapté dans le corps du faucon pèlerin à la vitesse. Et je pensais à la percussion. Est-ce qu'on sait s'il y a quelque chose de particulier dans le corps du faucon pèlerin qui fait qu'il est sûr de ne pas se blesser lui quand il percute une proie ?
Alors je pense que ça vient beaucoup de la technique de chasse, plus qu'encore à une adaptation particulière. Ouais. Il y a peut-être une adaptation cérébrale qui fait que le choc ne va pas... trop déménager la cavité cérébrale. Par contre, je pense que c'est vraiment lié à la technique de chasse, c'est-à-dire que lui, il va percuter une proie à grande vitesse sans la capturer. Donc c'est souvent, on dit qu'il botte, je crois, il vient taper la proie et ensuite, la proie tombe, elle est généralement tuée sur le coup et il la récupère, lui, en faisant un looping juste en dessous. Ouais. Voilà. Donc il n'y a pas non plus... C'est une percussion, lui, il est plus massif, donc plus lourd. Ouais. Il arrive à haute vitesse, donc généralement, lui, il ne va pas forcément sentir un choc énorme. D'accord. Mais il peut, pour une femelle par exemple, tuer un pigeon ramier, donc c'est déjà des oiseaux un peu gros, en vol par cette percussion-là.
Et ça, ce comportement-là, comme on a vu sur les corbeaux, c'est caractéristique d'un mâle territorial ou ça peut être une femelle qui, je sais pas, est sur sa zone de chasse.
Alors c'est caractéristique d'un comportement territorial. Ouais. La femelle fait la même chose si elle est disponible et le couple va le faire ensemble avant la couvaison par exemple. Quand ils sont cantonnés sur une falaise et qu'ils ont choisi le secteur dans lequel ils vont établir leur aire, ils vont avoir un comportement commun tous les deux de défense territoriale en harcelant tous les intrus. Là, si on voit que le mâle actuellement C'est probablement parce que la femelle est occupée à couver et qu'elle elle lâchera pas l'affaire pour venir défendre le territoire à ce moment-là. Et donc on peut au moins confirmer qu'on a ici un territoire occupé, avec probablement une couvaison qui est amorcée, mais on n'a encore pas tout à fait les clés pour affirmer à 100% que la cavité qui est utilisée est bien celle-là.
Ouais. On attend de voir.
C'est la recherche qu'on a au programme là, pour, pour cette séance-là. Ouais. Alors l'enjeu de cette séance d'observation, puis qui sera suivie d'autres séances si c'était pas, si on n'obtenait pas le résultat aujourd'hui, mais ce serait de confirmer qu'il y a bien une aire dans ce réseau de falaises et qui est bien occupée actuellement par la femelle en couvaison. Donc pour ça, on attend une interaction entre les deux individus. Par exemple, une chasse qui réussirait et pour lequel le mâle apporterait la proie à la femelle. C'est ce qui se passe régulièrement. Et à ce moment-là, la femelle, elle sort de l'aire pour récupérer la proie, pour aller se nourrir, et le mâle rejoint la cavité pour la remplacer sur la ponte. Donc on peut découvrir et confirmer à ce moment-là que la cavité est bien celle-là et est bien occupée. Donc c'est un jeu de quête,
ouais.
D'enquête. Là on est sur un site qui est un terrain de jeu pour les grimpeurs. Donc c'est un site qui est équipé de voies d'escalade, avec un maillage assez important sur la partie haute des falaises. Mais on est aussi sur un site qui est un site de reproduction de l'espèce faucon pèlerin. Donc c'est une espèce qui est protégée, c'est une espèce qui se porte mieux maintenant, mais qui avait vraiment des grosses difficultés dans les années 80 jusque dans les années 2000. Donc on essaie de porter au maximum une attention sur cette espèce-là. Et l'enjeu de ce travail, c'est de favoriser la cohabitation entre les grimpeurs et les rapaces de falaise. Donc le fait de pouvoir faire ce travail d'observation à cette saison, ça nous permet de détecter au plus tôt dans la saison les sites qui sont occupés par un couple, et si possible de détecter leurs aires. Une fois que les aires sont détectées, on peut à ce moment-là convenir qu'il y a des voies qui vont impacter la tranquillité de cette aire-là ou pas. Et si les voies devaient, ou la pratique de la grimpe devait impacter la tranquillité d'une aire et donc peut-être compromettre la reproduction, à ce moment-là, on instaure une mise en défense, une protection, c'est-à-dire interdiction de grimper sur telle et telle voie pendant la saison d'élevage des jeunes et donc jusqu'au mois de juin en général. Et l'escalade est réouverte après sur l'ensemble du secteur, après l'envol des jeunes. Donc ça permet à la fois de maintenir la pratique de l'escalade sur une partie de la zone et puis sur le reste du calendrier, on va dire, et de donner un maximum de chance à la reproduction du faucon pèlerin. Et à partir de l'éclosion des jeunes, les deux individus vont se remettre à chasser parce qu'ils vont avoir un sacré boulot à ce moment-là pour pouvoir nourrir une nichée qui peut contenir 2-3 poussins en moyenne, on va dire. Et donc la technique de chasse, c'est la technique du piqué. C'est, comme on le disait tout à l'heure, là, l'animal le plus rapide connu au monde, avec des piquets qui peuvent avoisiner les 300 km/h. Donc l'impact est forcément mortel sur le coup, pour sa proie. Et donc lui, il va prendre de la hauteur, soit en se postant comme ça sur un point haut en falaise, soit en orbant un petit peu, c'est-à-dire en utilisant un thermique qui va lui permettre de monter et puis de repérer de ce vol-là des proies qui peut aller percuter à plus d'un kilomètre de son départ de chasse. Donc c'est assez remarquable de ce point de vue-là, une technique de chasse très au point avec des adaptations particulières et puis un apprentissage aussi qui est hyper important pour les jeunes qui vont s'envoler. À la fin du mois de mai, par exemple, de cette année, il leur faudra beaucoup de temps pour s'expérimenter à la chasse et puis pour arriver à être efficace. Parce que vous imaginez bien qu'un piqué à 300 km/h pour attraper un oiseau de 15 grammes, c'est quand même quelque chose qu'il faut travailler.
En haut à gauche.
Premier point sur lequel
des personnes très concentrées, très attentives au mouvement du faucon pèlerin.
C'est lui, non?
Ouais, ouais, c'est bien ça. Donc il n'était pas parti loin. Ouais. Je pense qu'au vu du timing, on va pas forcément pouvoir patienter beaucoup plus ici. Et moi, je serais bien allé vous proposer de faire du coup, une seconde séance d'observation en s'attachant peut-être plus à l'observation de la falaise qui est à l'ombre, là, le petit Pomerol, en se mettant nous sur trois points différents. Pareil, en essayant de communiquer de poste à poste et de voir si on a contact avec l'aigle royal là-bas.
Alors bah, moi j'ai connu l'association Volontaires pour la Nature cet été. On avait fait un chantier d'éco-volontariat sur le plateau d'Ambel. On avait fait un petit tronçon de sentier de randonnée. Et du coup j'ai gardé contact avec eux et je me suis tenue au courant des chantiers. Moi je ne connais pas grand chose à l'ornitho, mais je suis venue en débutante pour voir. J'habite maintenant, depuis le chantier d'éco-volontariat à Ambel, j'habite à côté. Ça m'a un peu fait venir ici aussi. Et voilà. Donc je découvre.
Bonjour, ben, moi j'étais partie avec l'association il y a pas mal d'années, j'étais allée dans le parc national des Abruzzes et depuis j'avais suivi un petit peu les actions. Et là cette année, à l'idée de se retrouver donc, en équipe, de pouvoir observer donc, en novice aussi les oiseaux, voilà, avec une super dynamique d'équipe, avec des gens compétents et passionnés, voilà, ben, c'était le but de ce week-end. Voilà. Merci.
Totalement, pas par hasard, mais je regardais sur internet en fait des missions d'éco-volontariat et je suis tombé sur une mission de suivi des couples de faucons pèlerins et d'aigles royaux. Et comme j'ai commencé un peu à m'intéresser à l'ornithologie l'année dernière, et c'est deux espèces que j'adore en fait, je me suis dit ça tombe bien. Et comme j'habite à Paris, c'était un peu compliqué pour venir. Mais je me suis donné les moyens, je loue une chambre à Sceaux là, et je suis arrivé en train, puis je repars lundi, enfin demain du coup. C'est vraiment ce à quoi je m'attendais, et comme j'avais l'impression un peu d'idéaliser ce week-end, je me suis dit, bon, peut-être que ça sera moins bien que prévu, j'en sais rien, mais là il fait beau, on voit les oiseaux et tout, donc c'est génial. Je suis fan, voilà.
Tom, je suis volontaire à Volontaires pour la Nature depuis une quinzaine d'années. J'ai découvert l'association particulièrement autour d'une mission, Loupastre. C'était un petit peu la raison d'être lors de la fondation de l'association, il y a plus de 25 ans maintenant, 94. À Dieulefi d'abord, et puis depuis quelques années avec une boîte postale et un bureau à Romans, sur Isère. Et ça consistait à s'interroger sur la manière de faire coexister le plus pacifiquement possible les bergers, leurs troupeaux et la présence du loup. Puisqu'on sait que les attaques de loups peuvent mettre à mal les petites et moyennes exploitations. Et ce qui m'a tout de suite plu dans cette association, c'est son positionnement, c'est-à-dire que c'est très pragmatique. Pour favoriser cette présence du loup, eh bien, il faut aider les bergers à protéger leur troupeau. Donc, j'ai d'abord participé à deux chantiers, c'est-à-dire qu'on s'installait pour une semaine, une quinzaine de participants venus de toute la France, encadrés par des encadrants de l'association. On s'installait dans une ferme, une exploitation, du côté du Trièves. Et puis, on s'occupait des bêtes, des brebis notamment. Et on montait en estive avec les brebis pour apprendre à poser des parcs mobiles dans lesquels on réunit les bêtes la nuit pour pouvoir mieux les surveiller. Et puis, on campait aussi à côté du troupeau la nuit en espérant que la présence humaine dissuade des attaques de loups. Ça consistait donc à apprendre à faire ça, à comprendre un petit peu la biologie de l'animal, tout en bénéficiant tous les jours d'une intervention technique, professionnelle, des intervenants que l'association fait venir sur le site pour répondre à nos questions, pour tout nous apprendre. Donc c'était passionnant. J'arrivais, moi, de la ville, je suis parisien, j'arrivais pétri de convictions et de grand défenseur de la présence du loup. Et c'est au contact de l'association que j'ai compris la complexité du problème et que j'ai appris aussi à peut-être à modérer mes positions. Donc c'était très enrichissant. Et après avoir fait ça 2-3 ans, je crois, j'ai souhaité encadrer à mon tour des chantiers de ce genre. Une fois formés, les volontaires peuvent se mettre à disposition d'autres bergers ailleurs, en Drôme, en Isère, dans le Queyras aussi, pour aider, pour faire aide berger volontaire. Voilà, ça c'était vraiment la première mission que j'ai faite. Et au fur et à mesure des années, l'association est sollicitée par le département, par les espaces naturels sensibles, par les techniciens des gorges de l'Ardèche ou ailleurs, qui demandent aux volontaires pour la nature d'être suffisamment autonomes, de poser des campements autonomes là où c'est nécessaire pour mener des missions de protection de l'environnement pendant un week-end, pendant une semaine, au printemps, en été, en automne. Et ça m'a permis de tous les ans d'aller au contact de la nature, de rencontrer des gens, de m'intéresser à toutes ces problématiques de pastoralisme, d'agroforesterie, de suivi faunistique, au contact des gens et en m'immergeant dans la nature, dans des campements le plus autonomes possible. Donc ce sont des échappées belles, des parenthèses quand on vit en ville, très très précieuses. Depuis quelques années, 6 ou 7 ans, l'association fonctionne de manière vraiment bénévole. Il n'y a plus de salariés. Après, je crois qu'il y a eu jusqu'à 6 salariés dans l'association. Et puis, il y a 6-7 ans, il en restait 2. La situation générale des associations en France étant ce qu'elle est, avec des baisses de subventions drastiques, des modèles économiques problématiques, font qu'à un moment donné, l'association devait faire un choix. Et on a été suffisamment nombreux, à un moment donné, une quinzaine, tu disais Pierre, une quinzaine de bénévoles à se mobiliser pour sauver l'association, pour faire en sorte qu'elle continue d'exister, y compris sans salariés. Donc moi je fais partie du CA avec Pierre qui est trésorier et donc tout est bénévole. La prospection de nouvelles missions et puis l'organisation des chantiers, l'encadrement des chantiers. Et ça dure. Volontaires pour la nature a aussi longtemps été une plateforme d'interface entre des missions d'éco-volontariat en France, mais aussi des missions d'éco-volontariat à l'étranger. Donc dans plusieurs pays, je pense au Costa Rica, au Pérou, au Honduras, en Grèce, en Italie. Donc avant que Internet facilite tous les contacts, Volontaires pour la Nature faisait l'interface entre des volontaires français qui voulaient partir à l'étranger et des associations donc à l'international qui proposaient des missions d'éco-volontariat. Donc j'ai fait aussi plusieurs missions d'éco-volontariat à l'étranger grâce à Volontaires pour la Nature.
L'association, elle permet au grand public d'agir pour la nature et la biodiversité. Donc elle organise des chantiers de bénévoles avec des problématiques naturalistes. Par exemple, ça va être arracher des plantes invasives, favoriser le développement d'une espèce. Pendant 10 ans, l'association a organisé sur les hauts plateaux des chantiers pour créer des zones de clairière pour que le tétralyre, qui est l'oiseau emblématique du Vercors, puisse se reproduire. Donc on organise des chantiers en campement autonome. Toilettes sèches, douches solaires. Sur les chantiers, la nourriture est bio, végétarienne et locale. Et sur nos chantiers, il y a 50% de temps où on travaille et 50% de formation. Formation sur les oiseaux, formation sur les plantes, voilà, pour que les éco-volontaires puissent apprendre des choses sur le sujet. Donc ils deviennent autonomes sur le sujet, puis surtout sensibiliser et puis poursuivre des actions derrière. Des adhérents, on en a une petite centaine par an. Une petite centaine d'adhérents par an, dont je dirais peut-être 25 qui adhèrent chaque année, 75 nouveaux chaque année, donc en fait qui participent à des actions en fait.
Oui d'accord, pour participer à une action...
Il faut être adhérent.
Par exemple, si on fait 4 chantiers par an, avec en moyenne, je sais pas, une dizaine 10, de participants,
ouais,
ça fait 40 personnes par an,
plus 50,
qui sont sensibilisés à une thématique particulière en fonction du chantier qu'ils font. Donc si on multiplie ça par 25 ans, il va falloir fêter nos 30 ans bientôt. Donc oui, qu'est-ce que ça peut donner un petit millier de personnes à la louche depuis la création. C'est joli, 1000. Mais c'est toute la pédagogie du chantier nature qui est vraiment intéressante. C'est le fait d'apprendre un peu d'autonomie, de se questionner sur des choix de consommation. À travers l'autonomie, forcément, on se questionne sur ce qu'on mange, sur comment on boit, quel impact on laisse dans la nature avec nos activités. Donc ça, c'est déjà pédagogique en soi. Plus tous les apports techniques des intervenants.
Apport technique, apport technique et scientifique. Ouais. Puis après, il y a toute une dynamique de groupe qui se crée. Et c'est vraiment des rapports humains exceptionnels, parce qu'on est dans des lieux isolés, il y a vraiment une dynamique de groupe qui se fait, et puis c'est super, quoi.
Bien sûr. Ah, notre carrosse arrive, nous allons changer de site.
Tu m'as dit que vous étiez 10 ?
10.
Donc, d'accord.
On n'en a pas oublié, la roue. 11 avec toi, on a dit.
D'accord.
Donc, 3 équipes.
Ouais.
11 divisé par 3.
3. On peut se faire. Non, mais on peut laisser 4 ou 5 personnes ici.
Ouais.
Parce que je laisse 2 lunettes. Okay. Et il y a quand même ces 2 secteurs qui sont intéressants.
Okay.
À suivre avec la crête quand même, donc un œil sur le faucon pèlerin si jamais il venait à utiliser ce réseau,
ouais.
Et sur l'aigle royal pour ce qui se passe autour du pommerol.
Ouais.
Donc en laissant 2 lunettes, on peut laisser 5 personnes,
ouais.
Et on peut faire après 2 équipes de 3 sur les autres postes, c'est possible.
Hier j'en ai vu un magnifique.
Salut, t'as vu quoi alors?
Un aigle, je pense.
Ah.
Avec un petit derrière, plus haut. Là, là, magnifique. Et tain, c'était beau, il y avait du vent, il montait.
Ah, génial.
Alors, au tout début, j'ai pensé que c'était un vautour, parce qu'il faisait des grands tours comme ça.
Ouais.
Puis donc, je suis resté quelques temps en me disant, je vais en voir plusieurs.
D'accord.
Et j'ai vu le petit.
Et il était tout seul. Bon, oui, on promène bien ou on va faire d'autres équipes plus loin là-bas?
Moi, je fais demi-tour.
Ah, d'accord.
Parce qu'à un moment donné, il faut faire demi-tour.
Depuis 2018, on a un couple d'aigles royal qui a choisi cette falaise-là pour se reproduire et pour élever son jeune. Donc, vous allez voir sur la carte, il y a plusieurs cercles qui identifient les aires qu'on connaît. Mm-hmm. Sachant que quand il est venu ici, on n'en connaissait pas. Enfin, il y en a une très très vieille en bas, là, qu'on voit à l'œil nu d'ailleurs, en bas de la falaise. Une très très vieille que personne de connu n'avait vu utiliser, mais en tout cas, c'est une cavité avec branchage et tout. Donc il nous a révélé, lui, par sa présence, des aires qu'on n'avait pas forcément soupçonnées. Ouais. Donc on se dit, s'il vient une 4e année ou une 5e année sur cette falaise, c'est pas du tout sûr qu'il aille dans les cavités qu'on connaît, il peut très bien nous en faire découvrir d'autres. Je vais vous ouvrir la page correspondante, je vais donner un petit coup d'œil aux sites qui sont connus à surveiller. Ça, c'est un book photo, c'est un cahier technique sur lequel on a répertorié à peu près tous les réseaux de falaises présents sur le synclinal et autour du synclinal, qui sont des potentiels favorables pour les rapaces de falaises. Et donc, on a pour chaque site une photo avec une petite grille de commentaires quand on fait des observations et on note les dates d'observation, les durées, les observateurs, etc. Et on répertorie sur ces photos les sites connus de nidification. Donc là, on est face au petit pommerol. Et on a ici l'aire d'aigle royal qui a été utilisée en 2020.
D'accord.
Ici, celle de 2019. Et ici, celle de 2018. Donc on voit qu'il a exploité une grande partie du mur.
Okay.
Il reste encore tant d'autres possibilités là pour qu'il puisse s'installer que on ne va pas faire de paris pour cette année.
Il aime bien bouger chaque année. Royal, ou c'est...
Il aime beaucoup bouger chaque année. D'accord. Ce couple-là, il a été fidèle à une aire pendant 3 années consécutives, et même 4 fois en 5 ans, sur le versant sud. Et c'était plutôt étonnant.
D'accord.
Sinon, depuis, ils changent d'air chaque année, et l'autre couple qu'on a dans la Grande Combe, ils changent d'air chaque année. Ils ont quand même plutôt cette tendance à changer chaque année, mais par contre, ils peuvent garder la même face.
D'accord.
Comme ils peuvent changer de secteur complètement.
J'avais entendu que parfois ils aimaient bien rester au même endroit et du coup ça faisait à la fin des nids énormes. Et...
Ben, les aires peuvent être vraiment très conséquentes, mais c'est parfois l'utilisation depuis des générations. C'est-à-dire que nous, le couple de la Grande Combe, ici en forêt de Sous, il est connu et suivi depuis les années 80. Il existait certainement avant. Et depuis les années 80, il y a des aires qui ont déjà été utilisées peut-être 10 fois, peut-être 12 fois, etc.
Donc,
Il recharge à chaque fois, mais ça ne veut pas dire qu'il y vienne chaque année. Il va faire un blanc, il va parvenir dans cette aire pendant 3 ans, puis il va y revenir à un moment donné et recharger à nouveau. Oui, donc il y a des aires qui font 1 mètre cube de volume, par exemple, mais qui n'ont pas été utilisées depuis des années. Quoi. Voilà. Donc nous, on a un champ qui est relativement fermé. C'est assez progressif, c'est-à-dire que sur le poste des aiguilles là-bas, eux, ils ont un champ assez large. Eux, ils vont pouvoir voir arriver éventuellement en vol de plus loin un oiseau qui pourrait nous intéresser. Et donc, ils pourront nous signaler, d'ailleurs, j'allume ma radio, ils pourront nous signaler l'arrivée d'un oiseau. Nous, on est quand même très centré sur la face du Pomerol, c'est-à-dire que si à un moment donné, il y a un oiseau qui arrive, qui se rapproche de cette face-là, on prend le relais parce qu'on arrivera normalement à le suivre jusqu'à ce qu'il se pose en falaise, si c'est le cas.
D'accord.
Je vais faire un signalement pour dire que nous, on est en poste. Alors Yannick, pour les 2 autres équipes, nous on est en poste ici.
Et malgré pour l'équipe de terre, nous aussi on est en poste.
Yannick, pour l'équipe des aiguilles, est-ce que vous nous recevez de notre point là?
Oui.
Ok, merci. Alors si tout le monde est en poste, on peut démarrer l'heure et demie de protocole là maintenant. Et on se tient au courant des différentes observations qu'on fait sur chacun de nos postes. Voilà, bon courage.
C'est le même que tout à l'heure, ouais.
Ouais. Ah, il paraît plus gros.
C'est un retour fauve, ouais.
Ah ouais, alors du coup, il y a tous ces...
Ah, il y en a deux.
Ouais. En fait, ils ont vraiment des queues toutes courtes.
Voilà, exactement. Alors ça va être vraiment un critère important dans la distinction entre le vautour fauve et l'aigle royal, par exemple. La queue sur le vautour fauve, elle est beaucoup plus courte. Ça donne une silhouette qui paraît très massive. Chez l'aigle royal, en vol, tu vas vraiment observer une longueur de queue importante qui va vraiment t'aider à distinguer de la silhouette du vautour. Ouais. Alors moi, je m'appelle Yannick Mass et je suis éco-garde pour le département de la Drôme. Donc on est au sein d'un pôle technique qui travaille à la gestion des espaces naturels sensibles, propriété du département. La forêt de Soue en est un, c'est le plus grand en superficie, c'est à peu près 2500 hectares. Et on travaille ensuite sur 8 autres espaces naturels, du Vercors jusqu'au Diwa. Donc ça peut être des zones de montagne, ça peut être des zones forestières, c'est aussi des zones humides. Et donc on entretient au quotidien ces sites, depuis les sentiers de randonnée par exemple, ou les refuges en montagne, ou les points d'eau. Donc on a une mission de maintenance et d'entretien de nos sites, et on a des missions complémentaires également de suivi scientifique, comme on fait aujourd'hui, ou d'éducation à l'environnement, par exemple. Alors on a un partenariat de longue date maintenant avec les volontaires pour la nature, qui se traduit souvent par la coopération sur 2 ou 3 temps forts de l'année. Il y a un week-end au printemps assez tôt comme ça où on fait le suivi des rapaces du massif de Soue. Il y a aussi souvent une participation de leur part au week-end de la fête de la nature, un peu plus tard dans la saison, en mai. Et souvent on essaie d'organiser un chantier semaine en été sur l'un des sites. Donc ça peut être de la restauration de sentiers, ça peut être de l'ouverture de milieux, de la coupe d'arbres, etc. ou du creusement de mares. On a exploré un peu toutes ces pistes-là. Et donc, on arrive à les associer et eux arrivent à honorer ces chantiers-là à raison de 2 ou 3 fois par an. Ouais.
Eh bien, il faut aller sur Internet, tout simplement. Il faut taper volontaire pour la nature à pas de loup. C'est, parfois, on trouve les deux. Et on tombe sur le site de l'association avec tous les chantiers prévus, les fiches d'inscription, les feuilles de route détaillées avec le contenu des chantiers. Voilà. Alors pour participer à un chantier, il faut adhérer à l'association pour pouvoir bénéficier de l'assurance de l'association. Voilà. Ensuite, le coût des chantiers est très variable. Par exemple, ce chantier, ce week-end d'observation des rapaces est gratuit. Et puis, il peut y avoir des chantiers à... Pour une semaine, par exemple, entre 80 et 100 euros la semaine, nourriture comprise.
Bah, je crois que tous ceux qui ont envie de s'engager pour la nature, il n'y a pas de doute à avoir. C'est, Donc, le paysage est magnifique, on a des espèces qui sont patrimoniales. C'est aussi un échange entre bénévoles et professionnels, donc c'est enrichissant à tous les niveaux. Faut pas hésiter une seconde, il faut venir.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'expertise ou un niveau particulier dans l'ornithologie ou dans le naturalisme. Bon, il faut juste être curieux et puis avoir envie d'échanger avec des gens qui en savent un petit peu plus, puis d'en apprendre un petit peu à chaque fois. Donc voilà, il ne faut pas hésiter parce que voilà, même ce week-end, il y avait des gens qui n'avaient jamais regardé dans les jumelles ou n'avaient jamais vraiment observé les oiseaux. Donc, ils sont les bienvenus. Et au contraire, je pense que c'est comme ça que chacun pourra en savoir un peu plus et pour, dans l'optique de protéger un peu, toujours un peu plus la nature, la biodiversité, le vivant et voilà tout ça quoi.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux termes tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Et les mannes, faut faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Bien fort, use tes cordes vocales.
Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone.
Plus rien n'agite tes neurones, pas même le shit que tu mets dans tes cônes.
Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va vite faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas, et si tu n'as rien, et sois le premier à chanter ce refrain.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières.
Qu'au bout, hey, il y a la mer.
Et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien. Comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi pris dans vieux chêne. Et qu'on parle à la race humaine, l'oxygène et l'ombre qu'il t'amène. Mérite-t-il les coups de hache qui le saignent?
Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil.
Sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes.
Peut-être que je parle pour ne rien dire. Que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Que si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires.
J'aimerais pour tous les animaux
que tu captes le message de mes mots.
Car un lopin de terre,
une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots. Servira la croissance de tes marmots.
C'était l'ADN, émission pour le réseau Dromois d'éducation à l'environnement, par Magali Gray.